Vous écoutez On lit pour vous.
Une alternative à Amazon, version Québec. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 18 février 2025 dans la presse. La décision d'Amazon de fermer ses installations québécoises et les menaces tarifaires du président américain Donald Trump. Voilà deux ingrédients qui ont permis à l'entreprise signée locale de gagner en popularité et d'élaborer un projet de place de marché avec des produits 100% québécois, un an après la fermeture du tristement célèbre panier bleu. Imaginez un Amazon sur lequel tous les produits que vous voyez en naviguant sont fabriqués et conçus au Québec. C'est la meilleure façon pour nous d'expliquer ce qu'on lance, même si on n'est pas du tout d'accord avec les valeurs d'Amazon, lance en entrevue Dawei Ding, copropriétaire de l'entreprise signée locale, qu'il a acquise il y a 3 ans avec Louis L'Espérance. On veut absolument se distancier de ça, mais c'est quand même l'expression qu'on a trouvée qui explique le plus cette initiative. À la tête d'une entreprise qui possède 4 magasins physiques et une boutique en ligne vendant des huiles, des vêtements, des produits ménagers et des jeux, par exemple, les entrepreneurs sont d'avis que le contexte actuel leur permet de croire que leur Amazon version Québec, lancée d'ici la fin du mois, peut fonctionner. Le nationalisme québécois et canadien a pris de l'ampleur. Et évidemment, il y a l'espèce d'amertume envers Amazon qui bafoue complètement les droits des travailleurs du Québec, ajoute M. Ding. Oui, c'est une bonne conjoncture pour nous. Il souligne que depuis janvier, ses ventes sur le web ont augmenté de 43% par rapport à la même période l'an dernier et que plus d'une quarantaine de nouvelles entreprises ont approché Signé Local depuis le début de l'année pour y vendre leurs produits. Et selon le spécialiste des médias numériques Bruno Guglielminetti, également animateur de l'émission balado Mon Carnet, le projet de place de marché élaboré par ce duo d'entrepreneurs pourrait réussir là où d'autres ont échoué, comme le panier bleu. Petit retour en arrière pour mieux comprendre. Qu'est-ce que signé local? C'est une entreprise fondée il y a 10 ans qui compte à la fois 4 magasins physiques et une boutique en ligne. Signé local ne vend que des produits conçus et fabriqués au Québec. Elle fait actuellement affaire avec 200 entreprises d'ici pour un total de 3000 produits. Avec la nouvelle place de marché, les deux propriétaires souhaitent attirer 100 de nouveaux marchands. L'entreprise veut-elle faire comme le panier bleu? Y a-t-il une différence? Comme le panier bleu, initiative lancée par le gouvernement de François Legault pendant la pandémie, Signé Local créera, d'ici la fin du mois, une place de marché pour permettre à des entreprises québécoises de vendre leurs produits. Là s'arrêtent les ressemblances avec l'initiative mise en place par Québec. Car la vitrine qu'offrira Signé Local sera uniquement réservée aux produits fabriqués ici, une condition sine qua non pour Dawei Ding et Louis L'Espérance. Rappelons que le panier bleu avait suscité la controverse en affichant sur son site des produits provenant de Chine, comme des téléphones cellulaires, des cartes réseau et des fils de recharge. On avait alors répliqué que le panier bleu était en fait la vitrine des marchands québécois sans égard à la provenance du produit. De notre côté, les produits doivent être conçus et fabriqués au Québec. C'est ça pour nous l'achat local, souligne M. L'Espérance. Bien que l'entreprise vende déjà du savon, des huiles, des épices, des vêtements et des peluches, notamment, sur son site web, sa nouvelle place de marché à la sauce Amazon Québec lui permettra d'élargir sa gamme de produits, expliquent les deux patrons. Actuellement, lorsqu'un consommateur achète en ligne sur Signé Local des produits d'entretien ménager ou des cosmétiques, ces produits passent par le centre de distribution de l'entreprise, situé à Brossard, et de là, ils sont expédiés sur le pas de la porte du client. Avec la place de marché, la commande pourra être faite directement au marchand qui vend l'article, et ce dernier sera responsable de gérer l'envoi. Ça nous permettra d'avoir un éventail de produits qu'on n'a pas, faute d'espace à l'entrepôt et dans nos magasins, comme des meubles, par exemple. On va élargir notre offre, explique Louis L'Espérance. Les consommateurs qui feront leurs emplettes sur le site ne verront aucune différence, sauf au moment de la réception de leur colis, où le nom de l'expéditeur inscrit sur le paquet sera soit celui de Signé Local, s'il passe par l'entrepôt, ou celui de l'entreprise qui crée le produit. Signé Local entame cette semaine sa période de recrutement de marchands souhaitant vendre leurs produits sur sa nouvelle place de marché. En plus de proposer des articles québécois, les intéressés devront répondre à certains standards d'exécution, notamment la livraison en 48 heures. Signé Local prendra une commission sur chaque vente. Les participants devront également payer des frais annuels. Pourquoi Signé Local réussirait là où le panier bleu a échoué? La création de la plateforme du panier bleu a coûté extrêmement cher, mentionne Dawaiding. Nous, on fait affaire avec Shopify. On n'a pas à réinventer la roue. Et le panier bleu passait énormément de temps à expliquer un modèle d'affaires que beaucoup de monde ne comprenait pas. On est là depuis 10 ans, rappelle pour sa part Louis L'Espérance. Ce qu'on fait fonctionne, on est encore là et aujourd'hui on a une compagnie qui est profitable. Éventuellement, les deux partenaires souhaitent créer une place de marché sœur qui vendrait des produits exclusivement canadiens. Expert en nouvelles technologies, Bruno Guglielminetti soutient que Signé Local pourrait remporter son pari. Le momentum, il est là pour eux autres, dit-il, en faisant référence au contexte politico-économique ambiant. Je pense que les gens peuvent avoir de la sympathie pour cette démarche mercantile et privée par opposition au panier bleu, qui était une initiative de l'État. Selon lui, le panier bleu n'a été qu'une série de rendez-vous manqués. De simples sites où étaient répertoriés des marchands québécois, la plateforme a mis du temps avant d'être transactionnelle. Dans le cas de Signé Local, l'entreprise existe déjà pour vrai avec des magasins. Pour les retours, ça peut être réconfortant pour les clients. Pour réussir, ils devront également miser sur la qualité du service et la rapidité de livraison, ajoute-t-il. Mais pour ce qui est de détrôner Amazon, oubliez ça. Mais ils iront certainement chercher des parts de marché. Signé Local, en bref. Fondé il y a 10 ans. Propriétaires Louis L'Espérance et Dawaiding depuis 2022. Nombre de magasins, 4. Montréal, Rive-Sud et Québec. Nombre total d'employés, 40. Nombre total de produits offerts, 3000 provenant de 200 fournisseurs. Siège social, Brossard. C'était une alternative à Amazon, version Québec. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 18 février 2025 dans La Presse.
Appel au boycottage d'Airbnb, un texte de Marco Fortier paru le 19 février 2025 dans Le Devoir. Les appels à boycotter le géant américain Airbnb se multiplient, surtout aux États-Unis. Ce mouvement, qui gagne lentement le Québec, dénonce la nomination du cofondateur de la plateforme d'hébergement touristique, Joe Gebbia, au département dirigé par Elon Musk pour démanteler des organismes publics accusés de « gaspillage ». Le milliardaire qui a cofondé Airbnb en 2008 a commencé le vendredi 14 février 2025 son mandat au département de l'efficacité gouvernementale, Department of Government Efficiency, DOGE, a rapporté le New York Times. Cette entité créée par le président Trump a annoncé l'élimination de milliers de postes dans une série d'organismes montrés du doigt comme étant corrompus ou inutiles. L'agence USAID, plus grande contributrice au développement international dans le monde, ainsi que le Bureau de protection des consommateurs, Consumer Financial Protection Bureau, le département de l'éducation et les instituts nationaux de santé ont subi des coupes budgétaires qui mettent en péril leur existence. Ces décisions du DOGE, dirigé par un non-élu qui est l'homme le plus riche du monde, font l'objet de contestations devant les tribunaux. Les méthodes du groupe dirigé par Elon Musk sont dénoncées comme étant antidémocratiques. Des employés du DOGE ont ainsi accédé à des informations confidentielles au sujet de milliers d'employés de l'État et de simples citoyens, ce qui fait craindre une chasse aux opposants de Donald Trump. Le président et ses alliés ont laissé entendre qu'ils iraient de l'avant, peu importe les décisions des juges. Ils vont jusqu'à contester la légitimité du système judiciaire à remettre en question des décisions du pouvoir exécutif, un pilier de la Constitution américaine depuis 2 siècles et demi. Démocratie en péril. L'appel au boycottage d'Airbnb vise à dénoncer l'alliance entre le gouvernement Trump et les oligarques, principalement dans les industries numériques, qui menacent les fondements de la démocratie américaine, selon les opposants au mouvement MAGA, Make America Great Again. Les politiques de Trump favorisent les ultra-riches comme Joe Gebbia, qui vaut 9,4 milliards de dollars américains, 13,3 milliards canadiens. Au moment où ces lignes étaient écrites, la valeur du cofondateur d'Airbnb, qui siège au conseil de l'entreprise et à celui de Tesla, avait chuté de 44 millions de dollars sur les marchés en cours de journée, l'équivalent de 0,47% de sa fortune, selon Forbes. Quelques 5 400 messages d'appui au boycottage d'Airbnb, en majorité issus des États-Unis, étaient signalés sur le réseau Facebook mardi après-midi. Le mouvement Occupy Democrats, épicentre de l'opposition à l'administration Trump, a lancé cette mobilisation au cours des derniers jours. Cet appel s'ajoute au boycottage de tous les produits américains, notamment au Canada, où le président Trump impose des droits de douane variant entre 10 et 25% dans le but avoué d'annexer le pays. Le mouvement contre Airbnb gagne du terrain, timidement, au Québec et dans le reste du Canada. Des internautes dénoncent l'appui du fondateur d'Airbnb aux visées antidémocratiques du président américain, mais aussi ses menaces d'annexion du Canada et d'autres territoires, sans oublier son projet immobilier à Gaza sur les ruines palestiniennes, qui seraient vidées de leurs habitants après 1 an et demi de bombardements israéliens, d'après le plan américain. Debout face à Trump. On doit se tenir face à Trump. Je boycotte non seulement Airbnb, mais les États-Unis au complet depuis la première élection de Trump en 2016, dit Claude Rivet, un enseignant à la retraite de Belleuil, en Montérégie. Il a relayé sur Facebook l'appel au boycottage d'Airbnb pour sensibiliser ses amis à l'importance de ce qui se passe au sud de la frontière. Moins d'un mois après l'arrivée du populiste à la Maison-Blanche, Claude Rivet est étonné par l'ampleur des transformations déjà mises en place par Trump et son équipe. Les gestes en apparence illégaux du Doge, auxquels participe désormais Joe Gebbia, cofondateur d'Airbnb, préoccupent l'enseignant retraité. Il est légitime de chercher à améliorer la gestion de l'État, mais les méthodes expéditives des employés recrutés par Elon Musk, qui s'apparentent à du piratage informatique pour accéder à des informations sensibles, inquiètent Claude Rivet. On constate aussi qu'Airbnb est une des causes du manque de logements dans les grands centres, dont Montréal. « Juste ça suffit à me convaincre de ne pas y recourir », dit-il. Claude Rivet n'a jamais fait appel au service de la plateforme américaine d'hébergement touristique, pas plus qu'à Netflix, Amazon ou à d'autres géants comme Walmart. Il encourage les petits commerces locaux, boucheries, fruiteries, boulangeries, et fréquente le supermarché Métro de propriété québécoise. Airbnb a encaissé des profits en hausse de 13 % lors du dernier trimestre de l'année 2024, malgré l'instabilité mondiale correspondant à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Plus de 8 millions de logements sont offerts sur la plateforme partout sur la planète. Le prix moyen de location s'élève à 158 $ américains par nuit. Acheter, c'est voter. Le sociologue français Rodolphe Christin, qui publie ces jours-ci l'essai « Peut-on voyager encore ? Réflexion pour se rapprocher du monde », estime légitime le boycottage de destinations ou d'entreprises qui heurtent nos valeurs. Les Américains sont très agressifs et conquérants. Ils menacent de vous annexer, souligne-t-il au Devoir. Même si acheter, c'est voter, un boycottage n'est pas la panacée, croit l'auteur. Boycotter des opérateurs ou des destinations, ça envoie un signal fort, mais à mon avis, c'est plus symbolique qu'autre chose. L'action doit être aussi collective et politique, explique-t-il. Son essai publié le 26 février 2025 aux éditions Éco-Société plaide en faveur d'une vaste remise en question du tourisme en cette époque de crise politique et environnementale. Je vais passer pour un provocateur, mais faire du tourisme responsable, c'est faire moins de tourisme, lance le sociologue. Il ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a pris l'avion. C'était « Appel au boycottage d'Airbnb », un texte de Marco Fortier paru le 19 février 2025 dans Le Devoir.
Henri Chassé, « Le soi et l'autre ». Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 9 décembre 2024 dans les libraires. Puisqu'on l'invite à se prêter à l'exercice et à tenir un moment le rôle de libraire, l'auteur, comédien et metteur en scène Henri Chassé en profite pour faire un pas de recul et regarder l'ensemble de sa bibliothèque. Des rayons somme toute bien garnis, surtout en fiction et en poésie, une de ses formes littéraires de prédilection. Ayant lui-même fait paraître deux recueils aux Écrits des Forges, « Secret blanchi » 2003 et « Morceaux de tempête » 2008, où le salut vient in extremis nous sauver des tourments, il entame son parcours de romancier en 2021 avec « Ciel parallèle ». Nous y rencontrons des personnages en proie au grand désir de trouver leur voie. À l'image des héros de son second roman, Le Trophée, main libre, tout juste sorti en librairie cet automne. Simon Leclerc, un acteur dérouté, reçoit une récompense au moment où l'idée de quitter le métier avait commencé à germer en lui. Il décide d'avaler les routes, d'aller vers Nashville, Bob Dylan en tête. Citation. En roulant sous un soleil intrigant, il a la sensation de s'éloigner d'un monde ancien, de redevenir anonyme, de dénouer quelque chose en lui. Il est peut-être déjà trop tard pour faire demi-tour. Fin de citation. Mais avant son départ, il fait la connaissance de Gabriel, un jeune homme ayant l'intention de se sortir de l'itinérance. Ils se retrouveront, près d'une douzaine d'années plus tard, chacun ayant piloté sa vie vers des avenues différentes. Voilà le synopsis du dernier livre d'Henri Chassé, pour qui le besoin d'évasion accompagné de l'envie de la connaissance de soi le motive depuis longtemps à s'emparer d'un livre, chose qu'il fait de lui-même très jeune, entre autres avec la série « Les six compagnons », une bande d'amis toujours prêts à entreprendre mille et une aventures pour résoudre une situation périlleuse, et également les livres d'Henri Verne mettant en vedette Bob Moran, justicier sans égal. Entrer dans un livre. Plusieurs années en tant que lecteur invétéré mènent Chassé à parcourir divers univers, jusqu'à celui très signifiant du récit « Le Lambeau » de Philippe Lançon, qui raconte sa réhabilitation à la suite de l'assaut dont il a été victime au cours d'un attentat. C'est le retour de quelqu'un à la vie après avoir été démantibulé, relate l'acteur. Son rapport avec le monde dans cette espèce de vase clos où il a vécu le temps de la guérison et la place que l'art, la littérature, la musique et l'amitié ont prise pour le sortir de là, c'est exceptionnel. C'est vraiment de la grande littérature pour moi. Il insiste sur la qualité de la langue, qui fait de ce livre une œuvre unique, parée par ailleurs de nombreux prix, notamment le Fémina en 2018. Parmi les auteurs vers lesquels il revient sans cesse, notre invité nomme le nobilisé Patrick Modiano, écrivain reconnu pour la sobriété de son style, pouvant s'apparenter, selon Henri Chassé, à celui de Jean Eknoz. La nostalgie d'une certaine enfance et de toute chose disparue, souvent sertie d'une intrigue marquée par la recherche de ce qui a été perdu, apporte une ambiance caractéristique à ses romans, une force qui s'éprouve dans la simplicité de la prose. De même, Jacques Poulain, réputé pour son écriture dépouillée, s'inscrit sur la liste des incontournables du comédien, lequel mentionne « La tournée d'automne » et révélant ressentir pour cette œuvre une tendresse particulière. Un bibliothécaire fatigué sillonne les chemins, menant pour une énième fois son bibliobus à travers les paysages de la Côte-Nord. Cependant, des surprises l'attendent dans le détour, nommément une Marie qui viendra modifier le cours des choses. L'auteur Sylvain Prudhomme représente une autre figure littéraire aimée d'Henri Chassé qui nomme le roman « Par les routes », sorte d'ode à la liberté que suscitent les voyages, le nomadisme et une certaine bohème. Et la touche de fantastique s'introduisant dans le quotidien des protagonistes du japonais Haruki Murakami, rencontré pour la première fois par l'entremise de son roman « Kafka sur le rivage », le subjugue par les multiples dimensions qu'il déploie. Peut-être parce qu'il est acteur, notre invité entre dans un livre au même titre que s'il faisait partie de l'histoire. Il s'imprègne entièrement des personnages, des sentiments, de l'environnement, qu'il s'agisse de l'univers d'un John le Carré ou d'une Annie Ernaux. C'est mystérieux, mais j'avoue que c'est beaucoup l'atmosphère qu'un auteur réussit à installer, explique-t-il, s'imaginant lui-même déambuler en quelque sorte dans les rues d'une petite bourgade ou près des eaux du fleuve. L'impression d'y être est si forte, et c'est d'ailleurs à cause de la lecture qu'il arrivera à l'écriture. Sur un plateau, lors d'un tournage de la quotidienne Marilyn, pendant qu'il est en attente de jouer la prochaine scène, il attrape au hasard un numéro de la revue Liberté posé dans la bibliothèque servant au décor et il tombe sur le poème « Talus » de Philippe Proutier. Citation. La besogne a cessé pour 16 heures et c'est assez pour se restaurer et c'est assez pour rêver que les convois passant sur les rails me frôlent et de moi détachent un frisson léger pétale. Fin de citation. Un peu plus tard, il lit « Les murs clairs » de la poète Martine Audet. Ça brille tellement, c'est pur de dire Henri Chassé. À partir de là s'inscrit en lui le goût à son tour d'aligner des mots qui viendraient évoquer l'essentiel. Les mots salvateurs. L'auteur et comédien s'est intéressé récemment aux écrits des femmes ayant vécu des expériences traumatiques d'agression. Le consentement de Vanessa Springora, Triste tigre de Neige Sino, Parle tout bas d'Elsa Fotorino. Des textes forts, portant une parole importante, un geste plus que personnel, mais social. Dans un autre registre, il est saisi d'enthousiasme avec La constellation du lynx de Louis Hamelin, revenant en fiction sur la crise d'octobre en 1970. Et si l'on demeure du côté de la politique, il conseillerait à nos gouvernements les fables de La Fontaine, espérant qu'ils y puisent quelques leçons de morale, ou encore Le contrat naturel de Michel Serres, un livre réitérant le rapport nécessaire d'harmonie de l'humain avec la nature. S'il ne le connaissait pas déjà, Henri Chassé voudrait s'asseoir à la table d'un café avec Robert Lalonde et discuter de ses carnets d'écriture, bien qu'il ne dédaignerait pas siffler un verre avec Flaubert ou Camus. Les auteurs amènent une ouverture sur le monde. En même temps que l'on peut se reconnaître, on peut sortir de soi-même et voir en l'autre une partie de soi, exprime-t-il. Notre invité aime donc déambuler entre les rayons de chez Pauline, rue Masson, dans le quartier Rosemont, sa librairie de quartier. Il apprécie spécialement les commentaires personnalisés de libraires à poser sur les livres, l'aiguillant dans son prochain choix qui s'est arrêté ces temps-ci sur « Le mal joli » d'Emma Becker. Citation. Si je dois être honnête, j'écris parce que je n'ai toujours pas compris, peut-être que je ne comprendrai jamais, comment le cœur peut supporter de telles joies et des peines aussi abominables. » Fin de citation. C'est bien aussi de ça qu'il s'agit pour celui ou celle qui lit, une gamme d'émotions à partager rien qu'en ouvrant les pages. Une alcôve de confidences, de péripéties et d'audace qu'Henri Chassé prend plaisir à perpétuellement renouveler. C'était Henri Chassé, Le soi et l'autre, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 9 décembre 2024 dans Les libraires.